Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. Le RKS Foot Time Show. Foot Time Show.
Allez, bonsoir à tous et bienvenue dans le RKS Foot Time Show. On est lundi 19h, on va parler de l'actualité footballistique. Mais avant tout, je vais accueillir mes deux invités, c'est mes deux acolytes, j'ai envie de dire, de cette aventure. Tout d'abord, mon Kevin. Comment vas-tu, mon Kevin ?
Hey, salut Melvin, bonsoir à tous. Très heureux, comme d'habitude, d'être avec vous.
Ouais, je sais pas si hier la Juve aurait fait nul ou perdu, si t'allais être aussi heureux que ce matin.
Non, mais je n'avais aucun doute sur la capacité de cette équipe à gagner le match.
Bon, salut mon Pierrot, ça va ?
Ouais, écoute, ça va, ravi d'être avec vous, ravi de se réchauffer autour de l'actualité footballistique, là, par ces temps de neige. Donc écoutez, ravi d'être avec vous, mes frères de foot, donc heureux pour une nouvelle émission.
Effectivement, par ces temps froids, on va vous réchauffer le cœur, justement, avec le programme de l'émission. On va parler du Barça, renouveau ou pas du côté de la Liga. On va parler également Mercato, parce que là, il y a une grosse basse Mercato, et ça commence à bouger, notamment en Ligue 1, Kevin.
Ça y est, ouais, il était temps, hein, parce que bon, c'est vrai que plusieurs clubs, notamment le PSG en France, s'activent sur pas mal de dossiers. C'est aussi une occasion aussi de préparer le mercato estival. Donc ouais, j'ai hâte de débattre avec vous de tous ces petits dossiers.
Et ben on en parlera dans une deuxième partie. On parlera aussi Ligue 1 avec tout ce qui s'est passé lors de cette dernière journée. On parlera aussi bien sûr Ligue 2 et GF 38, hein, puisqu'on aura l'honneur d'avoir comme invité Désiré Piratambé, un des artisans du titre il y a 20 ans maintenant National, ouais, en 2001.
Ah ouais.
Ça fait 20 ans, c'est assez énorme.
Et donc.
Donc le temps passe vite. On verra ça avec lui. Allez, ça va être temps de lancer notre première partie. On se retrouve dans un instant. Eh oui, vous êtes sur RKS le 97 FM dans le RKS Foot Time Show. Notre premier sujet, c'est le Barça. On reste, messieurs, sur 7 matchs sans défaite, 5 victoires, 2 matchs nuls, 12 buts marqués, 3 encaissés. C'est des bonnes stats, le Barça qui revient à la deuxième place de la Liga. On a vu ces derniers matchs un grand Griezmann, un grand Messi. Messieurs, vous savez mon amour pour ce club. Est-ce qu'on peut parler de renouveau ou tout simplement d'une continuité de faiblesse de ce championnat de Liga que connaît cette année ?
Bah, quand on analyse, bon, je vais avoir aussi ton avis, Melvin, parce que tu es bien mieux placé pour parler de ce club-là que nous. Effectivement, depuis la défaite face à la Juve, on voit que ce club a retrouvé son rythme de croisière. Je pense qu'aussi, alors oui, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans ce vestiaire, peut-être que avec Griezmann ça va mieux. Bon, il a quand même fallu attendre que Suarez s'en aille pour que Messi en fait se sente obligé de nouer des liens avec Griezmann. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Mais bon, tant mieux pour l'un et pour l'autre. Moi, quand j'analyse quand même les adversaires de ce Barça sur cette série, Levante, la Real Sociedad, Valence, Valladolid, Eibar, Huesca, Athletic Bilbao, Grenade, on ne peut pas dire qu'on doit être totalement rassuré. Moi, je pense que ce Barça, je n'y crois absolument pas à ses chances de remporter le titre, surtout quand on voit que l'Atletico, je crois qu'ils sont devant, mais avec encore 2 matchs en retard, quoi. Donc, pour moi, ça me semble très très compliqué de pouvoir, surtout contre les gros, pouvoir être performant. Il va y avoir ce match charnière contre le PSG, où je pense que peut-être que ça peut être un tournant dans leur saison dans un sens ou dans un autre. S'ils gagnent contre le PSG et qu'ils sortent le PSG, ce dont je crois moyennement quand même, je pense que ça peut les aider justement à les galvaniser, voilà, même si je pense que ça suffira pas, mais je pense que ça peut les aider à bien finir la saison. Si par contre ils se font sortir et que le PSG en plus s'en sort avec la manière, je pense que ce sera définitivement ça sonnera le là pour le, enfin le glas en tout cas pour ce club qui pour moi est quand même sur un cycle qui se termine.
Et toi mon Pierrot, ton avis sur le Barcelone ?
Ben, mon avis, ça m'embête de le dire, mais je suis d'accord avec Kevin. J'espère qu'on sera en désaccord avec toi, Melvin. Mais en fait, le Barça, depuis le début de la saison, c'est après chaque après chaque match où ils font un match à peu près abouti, à peu près dans leur corde, après chaque victoire ou chaque enchaînement de deux ou trois victoires, on se dit tous, ça y est, c'est le renouveau du Barça. À chaque fois que Messi fait une passe décisive pour Griezmann ou l'inverse, j'entends le Barça est de retour, le Barça est de retour. Et à chaque fois, ça me fait mourir de rire. Au moment des phases allées, quand le Barça bat la Juventus 2-0, j'entends, ça y est, le Barça a enfin lancé sa saison, ça y est, le Barça commence à jouer au football. Derrière, ils font 1-1, puis ils vont gagner au Dynamo, ils battent ensuite 5-2 le Betis, et là tout le monde dit, waouh, ça y est, le Barça est lancé, il va falloir compter sur le Barça cette année encore, et derrière, il s'écroule à l'Atlético Madrid, et puis derrière, s'ensuit une période où ils gagnent, mais où après, ils vont se fracasser les dents sur la Juventus. Donc moi, j'y crois pas du tout, je suis d'accord avec Kevin, derrière aujourd'hui, au niveau du classement, le Barça est loin derrière l'Atlético Madrid.
Il y a quand même aujourd'hui, moi, le problème, c'est qu'on peut pas se baser sur ce que fait le Barça en fait en Liga, parce que le niveau des équipes passer la dixième place, et encore, le niveau des équipes, je trouve, est tellement faible.
C'est ce que j'allais dire. Moi, je vais vous donner mon avis. J'ai vu des matchs, certains matchs du Barça les derniers. Ça joue mieux.
Oui.
D'accord. Ça joue quand même mieux. Maintenant, effectivement, je pense que le Barça est dans une tourmente depuis quelques mois, avec ce faux départ de Messi, Bartomeu qui démissionne, l'arrivée de Ronald Koeman.
Départ de Suarez, hein, qui
symbolise, bien sûr,
l'échec du Barça. Hein.
Le départ de Suarez,
si on doit parler d'un joueur, on doit parler de Suarez, hein, qui aujourd'hui,
c'est une erreur.
À cause de son talent, l'Atlético, et d'ailleurs son ancien club, Paris Gaucher, c'est toute la le côté...
La mauvaise gestion du club.
Ouais, toute la mauvaise gestion du club.
Oui, après, on va pas refaire le débat là-dessus, mais...
Non, je pense que le club a très mal géré. Mais maintenant, je vois, ça fait 7 matchs que ça dure, où je suis confiant pour le FC Barcelone. Je vais vous dire honnêtement, c'est que je trouve le niveau de la Liga de cette année vraiment très très faible. On voit même un Real de Madrid qui est moyen. Un Atlético Madrid qui est flamboyant, mais qui est finalement... toujours la même équipe, avec cette envie, avec ce développement
en fait,
de jeu.
C'est ça qui est dommage avec l'Atlético Madrid, c'est que oui, bon, de toute façon, c'est une équipe, de toute façon, qui joue à 24 derrière, hein, la preuve, ils ont encaissé que 6 buts, je crois, cette saison, donc, c'est dire. Puis en plus, en Ligue des Champions, ils sont loin de survoler, pour le moment, en tout cas, la compétition, donc, c'est dire, je pense, le niveau de cette équipe, de ces équipes, du moins, d'Espagne,
Il faut le dire, l'Atlético, je pense que l'Atlético n'est pas forcément meilleur cette année qu'elle ne l'a été les années précédentes.
Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai.
Est égale à elle-même, et l'Atlético est aujourd'hui le témoin de cette Liga, qui, comme on le dit tous les trois, est totalement sur le déclin. Moi, ça fait 3 ans que je le dis, depuis le départ de toute façon annoncé de CR7 et la fin du règne du Grand Real de Zidane, j'ai annoncé de toute façon que la Liga allait de toute façon se mourir petit à petit, parce que l'âge moyen des joueurs n'avait de cesse d'augmenter, ils étaient incapables de capter les nouveaux talents qui vont tous en première ligue, et du moment où le Barça et le Real n'ont plus réussi à user de ce rayonnement qu'ils avaient d'antan pour attirer les jeunes talents, et ben voilà, les effectifs ont commencé à vieillir avec les organismes comme Modric et d'autres, sans vouloir les citer, et forcément ça amène aujourd'hui la Liga avec une Liga qui pour moi est une Liga de pré-retraités, avec des joueurs qui d'antan étaient des joueurs exceptionnels mais qui, comme tout le monde, vieillissent, et ça donne aujourd'hui ce niveau-là. Mais l'Atlético pour moi est égal à elle-même, et c'est là, en regardant l'Atlético aujourd'hui, qu'on peut être extrêmement inquiet de la situation de la Liga dans notre Big Five européen.
Ouais, plus que la situation de Barcelone, effectivement, je pense que c'est la situation de la Liga qui est plutôt préoccupant. C'est pour ça, je sais pas si on peut parler de renouveau pour Barcelone, mais en tout cas, c'est une bonne page qui s'écrit pour l'instant pour la Liga, et peut-être pour revenir en avant.
Les gars, regardez l'Atlético Bilbao, le Betis, Valence, qui sont quand même des clubs qui avaient tendance...
11e, 12e, 13e.
La première partie du tableau. C'est le néant.
Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vraiment très, très faible. Maintenant, on va voir. Hein. Je pense que le tournant, effectivement, il l'a dit Kevin, hein, ça sera la confrontation face au PSG. Même si je suis d'accord avec Kevin, il ne devrait pas y avoir photo. Le Paris Saint-Germain est largement au-dessus du FC Barcelone.
Et parce que, oui, en plus, moi, j'arrive pas à avoir une issue positive pour le Barça parce que, comme on l'a dit, c'est tellement l'année de tous les changements. Où tout le monde se barre, où il y a de nouveaux visages qui arrivent, mais le temps que la mayonnaise reprenne, reparte, puis je vois pas vraiment, à part peut-être Ansu Fati qui peut incarner ce futur du Barça, je vois pas d'autres joueurs. Puis moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que quand on bâtit le futur sur des attaquants, c'est très bien, mais la force du Barça, c'était d'avoir des milieux de terrain qui arrivaient et qui étaient d'un niveau extraordinaire, et je vois plus ça. Donc, je me dis, j'arrive pas à avoir d'issue positive. Alors que le Real Madrid, bon, c'est un effectif qui se stabilise. Alors oui, ça stabilise, mais ça vieillit, c'est vrai, mais c'est un club stable. Le Barça, c'est plus un club stable. Et de toute façon, je pense qu'on va repasser vers un, comme à l'époque le Barça, je crois des années 2000, début des années 2000, où le Barça était vraiment
dans un creux,
troisième, quatrième. Après justement les belles années, et avant justement de faire venir des gens comme Ronaldinho et d'avoir des Xavi, des Iniesta qui explosent. Je pense qu'il faudra attendre. Que ça revienne.
Écoutez messieurs, on va clore cette page Barça, on va parler d'une actualité, on parle de renouveau, il y a une actualité qui est folle, c'est le Mercato, on va en parler dans un instant sur RKS. Allez, le Mercato Show,
voilà,
on est prêt, on est chaud, ça bouge de partout au niveau de ce Mercato, et notamment en Ligue 1, du côté de Lyon, du côté de l'Olympique de Marseille aussi. On devrait rester quand même assez discret, hein, du côté du PSG, hein, tu vas nous en dire plus mon Kevin dans un instant. La grosse info ce matin, c'est la validation du transfert de Moussa Dembélé,
ouais,
du côté de l'Atlético Madrid. Avec option d'achat de 35 millions d'euros.
Ouais, encore un joli coup, jolie vente de la part de Aulas. Dembélé, ça reste un attaquant correct. Alors peut-être que Simeone le transformera en l'attaquant pour l'instant qu'il n'est pas, parce que c'est pas pour moi un attaquant. J'ai du mal à me faire un avis positif sur Dembélé parce que je trouve qu'il lui manque plein de choses. Je trouve que techniquement il est léger, il a un bon jeu de tête, mais je trouve qu'il y a trop de déchets dans son jeu. Bon, il a quelques coups d'éclat comme contre Manchester City, mais là depuis le début de la saison on peut pas dire qu'il ait été très bon, même pas du tout. Donc c'est une belle vente, je préfère perdre lui que perdre Aouar par exemple, largement.
Moi je trouve que c'est un très bon choix pour les trois clubs, pour les trois personnes, pardon, les trois parties. C'est-à-dire que Lyon, on a plus besoin entre guillemets,
voilà,
le vent
ça,
bien. L'Atlético, c'est pas un recrutement non plus, parce que c'est un joueur qui a du caractère, qui se bat énormément, qui fait des efforts défensifs.
Non, puis s'il y a un entraîneur qui est capable de transformer
de
un joueur,
et voilà,
c'est Simeone, hein, s'il reste. Mais je trouve que
c'est plutôt un bon choix. Kevin, est-ce que tu peux nous parler aussi également du remplaçant prévu à Moussa Dembélé, qui est aussi un choix plutôt intéressant.
Ouais, bah dans le coup, parce que je pense que ça va pas coûter grand chose par rapport à ce que va rapporter Dembélé. Moi je pense que le vrai remplaçant de Dembélé, c'est Tino Kadewere, qui était là déjà depuis quelques mois, qui donne satisfaction. C'est vraiment dans la même lignée de ce que Aulas nous a fait avec Ndombele, avec Ferland Mendy. C'est des joueurs qu'on n'entendait pas trop parler ou qui commençaient tout juste à éclore, et on les prend au bon moment, je pense. Et ils s'intègrent bien, c'est des recrutements intelligents. Et c'est pour ça, je pense, que Dembélé part. C'est pas tellement parce qu'on a trouvé le remplaçant de Dembélé, c'est parce qu'on l'a déjà. On l'a recruté il y a 6 mois, donc c'est, pour moi c'est très intéressant. Alors après, par contre, Slimani, bon, ça fera le... En tout cas, je pense qu'il aura le même rôle que Dembélé cette année, c'est-à-dire qu'il sera là, il jouera s'il est bon, et puis s'il est pas bon, il sera sur le banc, et puis il rentrera pour les 20 dernières.
C'est un joueur qui peut faire du bien, hein.
Je sais pas.
Franchement, les gars, Slimani, s'il arrive avec le niveau qu'il avait au moment où il jouait à l'AS Monaco, sur l'année où il est en doublette avec Ben Yedder, il crève l'écran. Il a largement le niveau pour s'imposer et pour faire des matchs de titulaire à l'Olympique Lyonnais. Après, c'est connaître son état de forme, parce que c'est un joueur qui est passé par tous les niveaux. Mais s'il est vraiment en jambes, ça peut être une vraie, vraie plus-value dans l'optique, notamment pour Lyon, d'aller chercher le titre.
Mmh.
S'ils ont envie d'avoir la profondeur de banc nécessaire.
Oui, oui, non, mais c'est un recrutement qui va être utile. Moi, j'ai pas à critiquer le recrutement parce que ça va pas coûter grand chose. J'ai pas le détail de l'opération. C'est peut-être un prêt ou je sais pas. C'est peut-être une opération. Il a quand même 31 ou 32 ans, donc.
Ouais. Mais c'est un peu un pari comme Burak Yılmaz, je trouve. C'est un peu dans le
oui,
même.
Oui, oui, mais ça sera
ça
utile.
Ça peut marcher.
Ça sera utile.
Mais ça sera utile.
Ça sera utile. Ça sera pas de l'argent dépensé bêtement. Ce sera utile. Parce que de toute façon, je pense pas qu'on cherchait un 9 en puissance. Parce que maintenant, t'as Depaye et t'as Kadewere.
Depaye devrait rester.
T'as Oekambi qui fonctionne bien cette année. Donc, il va être dans la rotation. Si ça peut être une bonne surprise, parce qu'il a les qualités aussi pour bien s'exprimer en Ligue 1, bah, tant mieux. En tout cas, par rapport aux objectifs que le club a, c'est-à-dire que ne jouer que la Ligue 1, c'est très suffisant.
D'autres infos, mon Kev?
Ouais, d'autres infos. Moi, je voudrais qu'on entende un petit peu notre Pierrot pour le recrutement, parce moi, j'ai entendu parler d'une triple opération au niveau du PSG. Le recrutement possible de Christian Eriksen, le recrutement possible de comment il s'appelle, d'Ele Ali, et la vente possible de Leandro Paredes vers un club que je vais retrouver parce que je ne l'ai plus. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu peux nous en dire déjà sur les deux recrutements? L'Inter, c'est ça.
Alors, bon, déjà, quand on parle de Paredes à l'Inter, on parle d'un montant de 35 millions. Demain, franchement, à 35 millions, je donne Paredes, je rajoute ce qu'ils veulent à ce prix-là, mais je rajoute beaucoup de choses. Parce que Paredes à 35 millions, au prix
il a été acheté 45 hein, quand même. Hein.
Déjà le nouveau Rezé, moi quand je l'ai vu arriver sur les premiers matchs, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on a encore fait? Je me suis dit c'est pas possible, Poutine c'est son père à ce mec, il venait de Russie, on l'avait acheté 45 bars.
Il venait du Zénith.
On va encore mettre le fair play financier à dos. Écoute, il a pas fait que des mauvaises prestations, mais de là à valoir 35 millions, c'est pas du tout le cas. Donc si demain il part à l'Inter pour 35 millions, c'est un super, super, super coup. Je vois pas la valeur ajoutée pour l'Inter de Milan. Alors j'ai vu des déclats d'Inter de Milan qui disent que Paredes est le maillon manquant pour vraiment que ce club puisse aller.
Ouais, mais quand on en a parlé déjà du milieu de terrain de l'Inter, enfin franchement, on voit qu'il y a
je vois pas en quoi Paredes.
Il sera dans la rotation où il prendra peut-être la suite de Vidal, mais pour moi c'est peut-être.
Mais j'arrive pas à comprendre parce que vraiment il parle de ce joueur-là comme étant le profil qui manque à l'Inter de Milan pour passer un cap. On doit pas voir les mêmes matchs.
Après, je sais pas. En fait, pour moi, c'est toute une question. C'est un peu comme quand on regarde le recrutement de Slimani à Lyon, le recrutement de Paredes pour l'Inter. Ça dépend peut-être le projet qu'ils ont. Si le projet, c'est d'être champion d'Italie, recruter Paredes peut être suffisant. Mais PSG a recruté Paredes en pensant qu'il pouvait gagner Ligue des Champions avec. C'est ça l'erreur, en fait, de casting. C'est qu'aujourd'hui, il faut recruter des joueurs qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Il faut pas recruter des joueurs juste pour tenter des coups de poker. Enfin, en tout cas, le PSG en est plus à ça, quoi. Enfin, faut passer après, à la vitesse supérieure là.
Pour le reste, Eriksen, pour moi, c'est un excellent milieu de terrain qui allait se perdre à l'Inter de Milan, et c'est triste quand tu vois le niveau qu'il avait en première ligue. Le fait qu'il puisse être amené à retourner à Tottenham, pour moi, c'est une super valeur ajoutée, même si aujourd'hui.
Eriksen, il va pas à Tottenham là, il va au PSG. Hein.
De quoi? Non, Eriksen est annoncé à Tottenham, et après c'est Dele Alli qui vient au Paris Saint-Germain. Mais Eriksen n'est pas annoncé au Paris Saint-Germain.
Ah ouais, d'accord.
Eriksen ne veut pas venir infos. De toute façon jouer en France. D'ailleurs, ça fait partie des nouveautés, hein, parce que c'est pas forcément quelque chose qui se passait ces dernières années. Il y a des joueurs comme Pogba qui aujourd'hui sont courtisés partout et veulent simplement retourner en Italie. Parce qu'il privilégie aussi un cadre de vie, il privilégie d'autres facteurs.
Ouais, enfin, il va pas aller jouer à Sassuolo. Hein.
T'as tellement de clubs qui sont capables de proposer les mêmes salaires, les mêmes revenus nets, que les joueurs maintenant, ils peuvent se permettre de choisir pour le projet sportif et aussi pour le cadre de vie. Par exemple, Pogba, lui, il se voit pas revenir vivre en région parisienne, c'est ce qu'avait dit un de ses deux frères. Mmh. Et donc Pogba, même si aujourd'hui le Paris Saint-Germain veut le recruter, il y en a beaucoup qui en parlent, je pense que Pogba retournera jouer de toute façon. Il ira jouer soit au Real, soit à la Juventus, mais je le vois plus retourner à la Juventus. Eriksen, c'est pareil.
Il est parti du Tottenham parce que Mourinho comptait pas vraiment sur lui, il le faisait pas jouer. Donc aujourd'hui il va quitter Inter où il ne joue pas, où Conte ne compte pas sur lui pour retourner
dans
Tottenham.
Un
alors oui, il connaît bien, mais par contre, je suis pas sûr que la vie de Mourinho, et surtout avec les performances récentes d'Eriksen, change, hein, entre-temps. Enfin, je sais pas, mais
oui, alors peut-être, mais en tout cas Eriksen, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où il part à l'Inter, le PSG était sur les rangs. Alors ils n'ont pas formulé d'offre officielle, hein, mais Leonardo avait sondé son entourage. Et ça s'était pas fait parce que Eriksen ne voulait pas venir jouer au Paris Saint-Germain, même s'il admirait le club et son ambition. Pour plein de raisons, il y avait aussi le niveau de la Ligue 1, mais il y avait surtout aussi le cadre de vie dans lequel il voulait pas forcément vivre. Donc voilà, donc l'opération aujourd'hui elle est là. C'est Paredes qui remplace Eriksen, même si pour le coup le départ d'Eriksen n'est pas forcément conditionné à l'arrivée de Paredes dans ce sens-là. Ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, de ce qui se dit, l'état-major de Tottenham aurait du mal à laisser partir Dele Alli sans renfort, en tout cas dans le secteur du milieu de terrain, donc notamment en comptant éventuellement sur Eriksen. Quand tu vois que Dele Alli, de toute façon, ne joue plus ces derniers temps, ce serait un remplaçant qui serait remplacé par un autre remplaçant potentiel.
Ouais, ça, par contre, alors peut-être que Pochettino va nous en faire, mais moi, Dele Alli, ça a été, c'est un joueur qui m'a énormément déçu ces derniers mois parce qu'on en a fait une étoile de ce mec.
C'est vrai.
À juste titre parce qu'il faisait des choses assez extraordinaires pour son âge quand même. Et depuis peut-être la finale, peut-être même de Tottenham contre Liverpool, donc 2 ans maintenant.
Il s'est éteint.
Il s'est complètement éteint. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est pas le fait qu'il se soit éteint, c'est aussi ses déclarations. Qui dit, il a quel âge ? Il a 25 ans, 24 ans. Qui dit, mais vous savez, j'ai plus 20 ans. Bah, attends, t'as 24 ans, 25 ans ? Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à 30 ans, tu finis jouer à Yokohama avec Kaizuke Miura, le vieux plus vieux.
Est-ce qu'on lui montre des photos de nous à 20 ans et à 35 ans ? Il va peut-être comprendre le jeune garçon.
Non, mais enfin, je veux dire, c'est quand même n'importe quoi. Et moi, je trouve ça très inquiétant, le recrutement de Dele Alli pour. Pochettino le connaît, peut-être que Pochettino le ressuscitera, j'en sais rien.
Mais c'est que pour ça, mais...
Tu sais, c'est aussi Pochettino qui lui a donné sa grandeur et qui lui a permis d'être ce qu'il est. Aujourd'hui, je pense qu'évoluer sous les ordres de Mourinho, c'est soit tu te sublimes, soit il t'enterre. Et aujourd'hui, je pense que Dele Alli, clairement, il n'est pas
en train
de avec Mourinho. Et je suis certain que si demain Dele Alli retrouvait un nouveau cadre, parce qu'il y a aussi, tu sais, une affaire de sextape, parce que Dele Alli, il est aussi appelé le Valbuena anglais, hein. Il a eu des problèmes comme ça extra-sportifs. Je pense que Dele Alli au Paris Saint-Germain, ce serait un deal gagnant même. Ce serait à la fois pour le club.
Je vois pas où il est gagnant. Parce que le PSG, ils veulent gagner la Ligue des Champions, oui ou non. Et pour moi, si tu veux gagner, il faut prendre des joueurs qui sont confirmés, qui t'apportent quelque chose. Là, on va encore tenter un pari qui va coûter, je pense, cher à Paris, parce qu'on parle de 60 millions quand même. C'est quand même, je trouve que ça fait même si le PSG compte pas ses sous, je préférerais, moi, à 60 millions d'euros, les mettre sur quelqu'un d'autre qui peut-être est dans une autre, qui dans une pente plutôt assez descendante plutôt que dans une pente descendante.
Oui, mais Kevin, on parlait de la même chose pour Icardi. La manière dont Dele Alli va débarquer au Paris Saint-Germain, ce sera sous la même forme. Ce sera un prêt avec option d'achat.
Mais même.
Donc, Dele Alli qui arrive au Paris Saint-Germain, excuse-moi, avec la qualité aujourd'hui de ce joueur, même si aujourd'hui il l'exprime plus sur les terrains, s'il retrouve un entraîneur qui a su le mettre dans les meilleures dispositions et faire de lui un des meilleurs jeunes au monde, Dele Alli, dans tous les effectifs, que ce soit la Juventus, au Bayern de Munich ou ailleurs, c'est un joueur qui, quand il est à son niveau, est dans n'importe quel 11 aujourd'hui du monde. Et ça, tu pourras pas me dire le contraire. Donc,
bah oui, moi si je te dis le contraire, parce que je suis désolé, à son poste, il y a meilleur que lui, même à 100%, il y a meilleur que lui à ce poste-là.
Donne-moi aujourd'hui quel joueur tu peux avoir sur le marché des transferts 2020-2021. Sur le mercato hivernal.
Mais je comprends même pas pourquoi on a ce débat, Pierre, parce que pour moi, même le profil de joueur ne colle pas. Je vois pas pourquoi on va chercher un 10 alors que le PSG va pas jouer avec un 10. Je trouve ça. Enfin, je sais pas.
Mais aujourd'hui, Kevin, on te permet d'avoir un des meilleurs jeunes joueurs à son poste, parce que tu peux pas aujourd'hui réduire la Dele Alli à ses 6 derniers mois où le mec il est en perdition totale.
Et c'est pas ses 6 derniers mois, c'est ses 18 derniers mois, Pierre.
Ouais.
Bah non, si.
Je suis pas totalement d'accord avec toi. Là, ça c'est le gouffre s'est creusé. Depuis l'arrivée de Mourinho, ça va de moins en moins. Mais Dele Alli, ça fait pas 18 mois aujourd'hui qu'il est en perdition. Alors oui, il y a une perte de niveau, une perte de constance dans les résultats, mais pour autant, ça fait pas 18 mois que Dele Alli n'est plus que l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, c'est le cas et encore une fois, il a besoin mais encore une fois, Kevin, quand tu fais venir un joueur en prêt, un prêt, c'est pas ça qui va faire boiter, qui va mettre à mal les finances du Paris Saint-Germain. Dele Alli, demain, il vient en transfert sec à 60 millions d'euros. Je suis le premier à dire que c'est la connerie du siècle. Demain, Dele Alli, il vient sous forme de prêt. Quand tu vois les difficultés aujourd'hui qu'a qu'avait, parce qu'il est parti Tuchel, et qu'aura certainement Pochettino à constituer un milieu de terrain qualitatif, avec tout ce que ça représente. Verratti, c'est le seul aujourd'hui milieu de terrain incontestable. Quand tu fais venir un Dele Alli, même sur une jambe, si tu arrives à le remettre et à le redresser et à lui remettre la tête à l'envers et qu'il puisse jouer, de toute façon, ce ne sera pas un luxe dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, tu fais venir un défenseur qui, sur le principe, a un top niveau, mais qui est en perdition au Paris Saint-Germain, je te dis, c'est une connerie. Parce que tu as deux mastodontes qui sont Marquinhos et Kimpembe, avec derrière Kerrer, Diallo, et j'en passe et des meilleurs. Là, je te dis que c'est une connerie. Par contre, au milieu de terrain, moi, je veux bien tout prendre. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a besoin. Et c'est Dele Alli, c'est bien. Si c'était Eriksen, ce serait aussi très bien. Mais aujourd'hui, on a besoin de renforcer ce milieu de terrain. Et pour moi, Dele Alli est un pari qui en vaut largement, mais largement la chandelle.
Mais écoute, on verra.
Écoute, on verra. Est-ce qu'on a d'autres infos, mon Kevin, sur le mercato ?
Bah, il y a quand même quelques autres infos. Alors, j'ai perdu le
Allez,
fil.
On les fait pêle-mêle.
On les fait pêle-mêle. Delors, apparemment, est toujours ciblé par l'OM. Donc après, je ne sais pas si ça va se faire maintenant, j'y crois moyennement, mais je pense que je ne serais pas surpris de le voir porter le maillot olympien.
Bon choix.
Là, c'est du gagnant-gagnant, je pense, pour les deux. L'OM qui cherche un bon attaquant.
Et Delors qui va jouer dans le top club de la Ligue 1.
Et Delors qui a peut-être une autre ambition que de jouer à Montpellier, donc ça peut être un bon coup.
Strootman du côté de... Prêté au Genoa,
bah, de toute façon, ça c'est...
Tant qu'à faire, qu'il joue pas, et qu'il joue pas à Marseille, ou qu'il joue pas au Genoa.
Autant qu'il.
Il sera à côté d'un port.
C'est ça. Upamecano.
Je suis pas au courant.
Au Bayern, apparemment, ça avance bien, les négociations.
Donc, ça serait encore dans la lignée du Bayern qui aime les Français au niveau défensif.
Ouais, ouais.
Pourquoi pas?
Upamecano, pour moi, c'est impossible aujourd'hui. Avec l'ambition que Leipzig a, malgré sa défaite contre le Dortmund, d'aller chercher une place qualificative ou même la première place de Bundesliga. Pour moi, ça, c'est des trucs qui sont dans les tuyaux pour l'été prochain. Mais c'est prématuré d'en parler aujourd'hui. Pour moi, dans la rubrique Mercato.
Oui.
Enfin, en tout cas, ça serait un très bon choix de la part du Bayern.
Il y a par contre un super coup qui est en train d'être fait par Marseille. Vous connaissez peut-être pas ce joueur, mais il y a Paul Lirola, qui est un jeune latéral espagnol qui joue à la Fiorentina, qui a 23 ans. Et il a un profil qui est très intéressant parce que c'était un. Il est formé à la Juve, déjà. C'est un joueur qui jouait beaucoup plus haut quand il était dans les sections jeunes. Il a été reculé. Donc, c'est un joueur quand même qui a pour habitude de se projeter vers l'avant.
Dans
un 3-5-2, il peut être à l'aise. Même dans une défense à 4, il peut être à l'aise aussi. Ça va coûter 12 millions d'euros.
C'est
un prêt avec option d'achat. Très bon coup. Ils en font pas souvent, donc on peut quand même leur rendre ça. Je trouve que c'est très très intéressant. Pour ceux que ça intéresse, du coup, j'en parlais un petit peu tout à l'heure en rigolant, mais Kaizo Uyoshi Miura, le joueur qui a 54 ans, a prolongé son contrat à Yokohama.
C'est énorme, quand même une
histoire fantastique. Apparemment, Saliba devrait rester à Nice aussi la saison prochaine, en prêt toujours. Donc bon, ils s'en sont pas encore là, a dit Jean-Pierre Hivert, mais apparemment, c'est ce qui est étudié, donc ça serait bien pour Nice.
Par contre, ce qui est surprenant, c'est que du côté de nos voisins européens, ça bouge pas trop pour l'instant.
Non, c'est vrai. Bah après, de toute façon, la crise du Covid fait que les gens sont quand même ultra prudents. Et je pense que tant qu'il n'y a pas un transfert qui débloque tout.
Les Anglais avec le Brexit.
Ouais. Et il y a le Brexit. Les Espagnols voyaient le Barça qui peuvent pas recruter Memphis Depay à cause de leur liquidité. C'est compliqué. Hein. Je pense que niveau européen, ça va être très compliqué.
Et Thauvin aurait décidé de partir aussi.
Oui. Il souhaite pas renouveler en tout cas.
Il y a une info aujourd'hui dont on parle pas assez aussi, qui parce que c'est un joueur aujourd'hui qui joue dans un club modeste, c'est Boulaïdia. Téléfoot d'ailleurs a consacré un grand format à Boulaïdia. Boulaïdia, pour ceux qui ne le connaissent pas, il évolue à Reims. C'est un attaquant, et c'est un attaquant aujourd'hui qui, à la mi-saison, est le meilleur buteur de notre Ligue 1 avec 12 réalisations. On l'annonce pisté, entre autres, par l'OM, qui bien sûr, on n'aurait pas les liquidités pour faire face. Et notamment, de l'autre côté, il y aurait Arsenal, West Ham, pour citer qu'eux, qui seraient en discussion plus ou moins avancée avec l'entourage du joueur et avec le joueur et son agent pour le faire venir dès le mercato hivernal. Et le club du Stade de Reims a déjà annoncé que le joueur bénéficiait d'un bon de sortie si l'offre était satisfaisante. Donc ça animera peut-être la rubrique des transferts.
On va voir.
Ce qui est sûr, c'est que ce joueur est un jeune joueur qui a un gros talent. D'ailleurs, il a fait trembler les filets déjà, donc je disais à 12 reprises. Et je pense que pour certains clubs de première ligue qui sont aujourd'hui dans le ventre mou.
Ah, mais faut pas qu'ils partent en première ligue. C'est trop tôt.
Transition toute faite, hein, les gars, hein, puisqu'on va parler de Ligue 1 et notamment du doublé de Bounadia face à Saint-Etienne pour la victoire de Reims 3-1. À tout de suite. Allez, vous êtes dans le RKS Foot Time Show. On a parlé de Mercato et on parle maintenant en Ligue 1, notamment avec le choc. Beau match, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est entre Rennes et Lyon.
Ouais.
Un Olympique Lyonnais de caractère, une équipe de Rennes que j'ai un peu retrouvée, qui retrouve un petit peu son football. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ouais.
Mais il me rassure un petit peu au niveau du jeu déjà, cette équipe
oui,
de Rennes.
Oui, oui, bah, de toute façon, on connaît, on sait que cette équipe de Rennes, bon, personne n'a cru vraiment à Julien Stéphan qui disait qu'il jouait le maintien. Je pense que c'était juste pour réveiller un peu ses joueurs. Dommage pour Lyon qui, du coup, bah, aurait pu terminer cette phase aller. Avec une avance plus confortable, mais bon, c'est déjà des bons résultats à prendre à l'extérieur contre des équipes qu'on sait qui sont.
C'est même un excellent résultat. Tu dis dommage pour Lyon, mais j'ai envie de te dire plutôt vu.
Non, mais au vu de la physionomie du match, c'est logique et heureusement que Lyon est revenu. Mais d'un point de vue avant le match, ce genre de match-là qu'il faut que tu gagnes justement.
Complètement. Paris Saint-Germain qui gagne 3-0 face à Brest. Ça déroule, hein. C'était pas une grande équipe de Brest, hein. Paris Saint-Germain qui continue son petit bonhomme de chemin sans pour autant régaler. Il y a une image qui m'a marqué quand même, c'est je trouve Mauricio Pochettino assez proche de ses joueurs, vraiment dans la personnalisation du, si vous voulez, de l'état du joueur. Il allait voir chaque joueur, il a dit un petit mot, il les a rassurés pour certains. J'ai trouvé avec beaucoup de communication face à sa nouvelle équipe.
On va pas faire de bilan trop
hâtif. Non, c'est pas un bilan, ça m'a surpris.
Ouais, bah oui, peut-être. Je sais pas, j'ai pas fait attention vraiment à ça. Peut-être que Pierre aura aussi son avis là-dessus. Moi, je trouve que, bah, de toute façon, on sait que c'est un bon entraîneur. Il faut du temps, peut-être qu'il essaie justement d'être dans une espèce d'opération séduction auprès des joueurs pour qu'ils puissent les embarquer correctement. Donc c'est pas inintelligent de sa part.
Après, il connaît la situation, hein. Tuchel était quand même proche de ses joueurs. C'est quelqu'un qui a su conserver le vestiaire même dans les mauvais résultats. Et Pochettino a pu constater la brutalité du limogeage de Thomas Tuchel avec ce que ça représente chez les joueurs. Donc il était obligé derrière d'arriver avec un petit peu de crème, un peu de pansement, pour essayer de faire en sorte que la transition se fasse malgré tout en douceur. Après, pour revenir sur ce que disait Melvin, Pochettino est de toute façon un entraîneur qui a tendance à être plutôt paternaliste, à materner et à protéger quand même son effectif. Ce que on peut noter pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de voir le Paris Saint-Germain évoluer sur ces deux derniers matchs, et le premier choix fort de Pochettino,
c'est Verratti.
Parce que c'est prématuré pour tirer des enseignements, c'est Verratti. Verratti qui, bah, d'ailleurs, a sublimé, hein, depuis son retour face à Leipzig, où il donne un nouveau visage sur les 10 dernières minutes de match. Depuis, Verratti, c'est la clé de voûte, c'est la pièce maîtresse, c'est le joueur indispensable de l'effectif parisien. Ça fait des années que je le suis parce que je suis le Paris Saint-Germain de très près. Je n'ai jamais vu Verratti à ce niveau-là, avec cette aisance, cette faculté, cette vista. Il est bluffant.
Pierre, tu n'as jamais vu Verratti à ce niveau-là. Moi, je me souviens d'un certain PSG-Barça. Barça-PSG, je ne sais plus.
Et dans un état de grâce.
4-0. Le 4-0, c'est un grand match de Di Maria, mais c'est peut-être la prestation la plus accomplie, la plus aboutie de Marco Verratti. Et moi, je ne l'ai jamais revu à ce niveau-là. Alors, peut-être que contre Brest, on peut s'extasier. Moi, je m'extasierais justement s'il refait des performances-là contre des grosses équipes. Il en est capable. On sait de quoi il est capable. Mais moi, j'aimerais bien le revoir face à une grosse équipe dans un match couperet. Et là, je serai le premier à le dire dans l'émission avant toi, Pierre, que là, on a retrouvé Marco Verratti.
Alors, je nuance sur deux points. Un, déjà, face au Barça, le meilleur joueur du match, peut-être même devant Di Maria, c'est Kimpembe. C'est en
oui, mais...
Il y a Nil, parfois même sur une position de numéro 6, quasiment le grand Messi. Ça, c'est un premier point. Je te parle de Verratti, que je n'ai jamais vu comme il est aujourd'hui, parce qu'il est aussi positionné en numéro 10.
Oui,
ça veut dire
oui,
que cette faculté de conservation de balle et cette vista qu'il avait sur un poste de numéro 6 s'avère mais destructeur pour l'adversaire lorsqu'il est positionné aussi proche du but. Tu le verras et tu l'as vu et tu le reverras, et j'espère qu'on le verra en numéro 10 avec l'équipe d'Italie. Quand Verratti conserve le ballon dans la surface adverse et non pas dans la sienne comme il sait si bien le faire, je te promets que ça donne le
tournis aux défenses. Ça ne peut fonctionner, Pierre, que quand tu es face à un adversaire comme Reims, qui est un adversaire qui va jouer la défense, qui va te laisser le ballon. Et vu que lui, tu n'as pas besoin de faire cet effort de remonter le ballon depuis la défense et de faire le lien entre la défense et l'attaque, il peut être positionné plus haut. Et il sera bon parce que c'est un joueur qui est intelligent, qui sait bien donner le ballon dans les petits espaces et qui sait le conserver. Donc moi, je ne suis pas surpris qu'il soit bon en numéro 10. Je serais surpris si jamais il fait ce type de prestation-là contre un grand, grand club ou du moins contre un adversaire qui va aussi vouloir avoir le ballon. Et ça va être beaucoup plus difficile pour lui à ce moment-là. On en reparlera, mais je pense que Verratti, alors peut-être que contre ces équipes un peu plus faibles, ça peut être intéressant de le mettre un peu plus haut, je suis d'accord, mais je pense que lorsque les matchs de vérité vont arriver, il sera repositionné à son poste habituel, où il peut être excellentissime aussi, mais je pense que c'est notamment si en plus les souhaits de Mercato du PSG arrivent, si tu fais venir Delali pour laisser Verratti en numéro 10 et le mettre sur le banc, c'est un peu dommage. Donc je pense que peut-être que Pochettino a cette volonté de jouer avec un 10, parce qu'à Tottenham il joue avec ce 10 justement, peut-être que ça marchera tout aussi bien.
Messieurs, Lille qui s'impose à Nîmes, encore avec un but de Burak Yılmaz. Il est incroyable ce joueur quand même.
Ouais. C'est un tout petit Lille. Hein. Un tout petit Lille.
Tout petit Lille, mais encore un Burak Yılmaz qui sort de la tête de l'eau de
Lille. Je trouve qu'on est parfois, alors sans forcément parler de Lille, mais je trouve qu'on est parfois injuste avec les clubs qui font de temps en temps des petits matchs. Tu sais, parce que ça peut arriver dans une saison. J'ai connu aucun club, alors peut-être le Barça de 2011, je crois, 2012, je sais plus. Le Barça qui roulait sur tout le monde et qui mettait des fessées à tout le monde. Mais ça arrive quand même ultra rarement. Les clubs qui jouent comme Lille, comme ça, à l'extérieur, contre des petites équipes comme Nîmes, si elles ont des ambitions sur le reste de la saison et des matchs à préparer, bien évidemment qu'elles ne vont pas se mettre à fond contre des clubs comme ça. Donc moi, ça ne me surprend pas de voir des équipes comme Lille...
passer à côté d'un match, entre guillemets, mais ils le gagnent.
Voilà, l'important, c'est de le gagner.
Les gars, faut qu'on en parle. On se réunit toutes les semaines, les auditeurs, les auditrices, ils nous écoutent. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que Lille, c'est pas depuis hier... Il y a eu un séisme à Lille, dont on ne va pas reparler, avec le départ du propriétaire et du directeur du recrutement, du directeur technique. Depuis, Lille ne va pas très bien. Lille a fait 0-0, donc bon, ce qui n'est pas un mauvais match contre le Paris Saint-Germain, a été malmené et dominé face à Montpellier et a arraché in extremis la victoire, est ensuite allé perdre à Angers 2-1 et a failli perdre contre Nîmes, parce que j'ai vu le match en partie et j'ai vu le résumé. Lille pouvait et aurait même pu perdre sur ce match, et depuis Lille est méconnaissable. Donc quand tu dis il faut pas être trop dur à chaque fois qu'un club fait une prestation un peu en demi-teinte, Lille, depuis ce séisme, Lille, je vais pas dire est l'ombre de lui-même, mais c'est plus du tout le même Lille qu'on a pu connaître depuis les derniers mois,
depuis dominant. Pierrot, depuis le départ de Lopez, Lille c'est quand même 3 victoires, un nul, une défaite, c'est pas non plus catastrophique, hein.
Non, mais oui, mais je suis d'accord, mais il faut analyser le résultat. Et après, il faut analyser le contenu. Parce que sinon, au moment des grandes échéances, des huitièmes et des quarts de finale de Ligue Europa...
Pour être tolérant, justement, face à cette petite équipe, ils y sont pour rien. S'ils ont fait, s'il y a eu cette espèce de séisme au pire moment du... Peut-être,
Il faut le noter.
Mais du coup, justement, moi, ça me conforte dans l'idée que c'est pas grave.
Toi, tu leur mets 15-0
contre Nîmes avec une petite performance. Moi, c'est pas grave. Ça m'aurait plus inquiété qu'ils perdent avec en plus pas la manière du tout et pas d'envie. Le fait qu'ils arrivent à gagner des matchs, même quand c'est plus difficile, quand t'as un peu bougé, c'est aussi là aussi que tu vois comment la force de caractère des joueurs quand même. Donc,
messieurs, moi je suis quand même, je suis d'accord avec toi, Kevin. Hein, sur, faut pas qu'on mette des gros tacles à la carotide sur des équipes comme ça.
Il faut laisser le temps.
C'est pas un tacle, c'est un constat.
Oui.
Et c'est une manière de dire attention.
Oui.
Écoutez la conférence de presse de Galtier. Galtier, il n'emmène pas large hein, après le match hein, contre Reims. Hein.
Oui, parce qu'il sait que la prestation est moyenne. On est d'accord.
Il le sait. Il a cette lucidité de dire attention. La dynamique dans laquelle on est, alors Melvin, il parle de la dynamique comptable. Moi, je trouve ça assez stérile, même si je suis le premier à citer tout ce qui est comptable, parce que j'aime bien mettre les chiffres en avant. Là, aujourd'hui, pour moi, faut faire attention, parce que ça reflète pas forcément une réalité. Il y a d'autres clubs qui au contraire eux sont en train d'inverser une bonne, en train de créer une bonne dynamique comme Reims par exemple ou d'autres clubs qui remontent. Pour moi aujourd'hui, Lille marque le pas et même si au niveau comptable ça reste correct, ça reste même très bien. Attention parce que dans le contenu aujourd'hui, on est loin de ce que Lille proposait il y a encore deux mois en arrière où on disait que c'était
oui, mais ils ne pourront pas faire de miracle cette année.
C'est encore
on y a cru à un moment, mais.
C'est encore troisième avec six points d'avance.
Oui, hein. Oui, mais de toute façon, il ne faut pas qu'on se mette dans la tête. Il ne faut pas qu'on ait la nostalgie du Lille d'avant, parce qu'à mon avis, avec ce qui s'est passé, ça va être compliqué de le retrouver.
Allez, d'autres résultats, messieurs, hein, puisqu'on ne va pas rester sur ce match. Hein, c'est le 0-0 entre Marseille et Dijon. Monaco qui s'est imposé 3-0 face à Angers. Hein, Monaco qui continue son petit bonhomme de chemin, hein, qui se met à la quatrième place. C'est logique, c'est bien.
Ouais.
Ça fait partie des gros clubs qui sont capables de.
Faut qu'on parle de Saint-Étienne.
On va parler de Saint-Étienne.
Moi, je veux parler de Saint-Étienne.
On va parler de Lens Strasbourg 1-0, Montpellier-Nantes 1 partout, Domenech qui perd pas pour l'instant, Metz-Nice 1 partout, Bordeaux-Lorient 2-1 pour Bordeaux, et Saint-Étienne qui s'incline encore face à Reims. Mais quelle catastrophe ce club!
Non, mais c'est ça.
Mais
c'est...
qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'est un phénomène qui n'existe pas qu'à Saint-Étienne et pas qu'en France. Mais ça, c'est s'il y a un truc qui m'énerve, c'est de voir des petits clubs.
Petit.
Saint-Étienne, c'est pas un petit club, mais en tout cas cette année, c'est pas un club qui va jouer les 5 premières
équipe.
Places. Une équipe moyenne moins, parce que au vu des performances et ce qui monte sur le terrain, c'est une équipe moyenne moins. C'est une équipe qui, si elle finit 12e, 13e cette année, elle sera à sa place. Je ne comprends pas comment tu peux passer en 3 jours d'un match solide, correct, contre une grosse équipe, une des meilleures équipes du championnat, la meilleure équipe du championnat qui est le PSG, même si c'était un PSG avec un nouvel entraîneur, etc. Bref, comment tu peux, avec ce qu'ils ont montré sur le terrain, comment tu peux passer de ça à rien du tout contre une équipe encore moins bonne Enfin, moi, c'est ça que je comprends pas. Et ça existe je le vois dans pas mal de championnats, en Italie notamment, où la Spezia, par exemple, va gagner contre Naples. Et après, le match d'après, ils vont reprendre 4-0 contre une équipe de même niveau qu'eux. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faussez le championnat comme ça? Moi, ça m'énerve. Si vous êtes bon, si vous êtes capable de faire les choses, eh ben, vous pouvez le faire avec plus de continuité. Vous pouvez mettre la même intensité. Vous avez le droit. D'accord? C'est pas parce que c'est une équipe plus faible ou du même niveau que vous en face qu'il faut se dire bon ben peut-être pas les pour moi ça c'est un vrai problème et ça m'énerve quand je vois ça. Ça me saoule.
Auditeur, auditrice, si vous étiez pas, si vous le saviez pas, là Kevin n'était pas en direct du Chaudron Vert, mais bien en direct de Turin. Hein. il parlait de la Juventus.
Mais non, parce que pas du tout.
Non,
pas du tout.
Il a raison.
Non mais Kevin, je te rejoins. Après Saint-Étienne, tu peux pas limiter non plus ça au match contre le Paris Saint-Germain. Saint-Étienne restait sur 7 matchs sans défaite, avec certes une seule victoire et 6 matchs nuls, mais des matchs nuls et non des moindres. Ils sont allés faire match nul face à Lille, ils sont allés faire match nul à Monaco. Et ils sont allés faire match nul au Paris Saint-Germain.
Oui, bah d'accord.
Donc, il y avait une vraie.
Mais pourquoi tu fais de la merde après contre des équipes qui sont moins fortes et qui c'était Dijon là, ils sont 18e Dijon.
Et surtout face à Reims où tu joues.
Et Dijon, ils étaient sur quoi comme non, c'était Dijon, c'est qui c'est
Reims.
C'était Reims.
Ils jouaient justement la 14e place.
Non, mais c'est quand même.
Mais oui, mais Loulou, ça me fait penser aussi à la défaite qu'ils avaient eue contre Brest, je crois. Je sais plus combien ils avaient pris. Attends, j'ai regardé. Je crois que c'était 4-1. Ils avaient pris 4-1 contre Brest. Juste avant de se reprendre face à Lille, mais c'est le paradoxe de cette équipe de Saint-Étienne, c'est qu'il y a des moments t'as l'impression qu'elle est poussée par ses talents d'antan, le AK, tu vois, pour invoquer les anciennes légendes. Là t'as l'impression que parfois les légendes de Saint-Étienne descendent sur le terrain face au gros, et à l'inverse.
Non, moi je pense que c'est surtout les joueurs qui ont bien envie de se faire voir. Ils savent que le match contre le PSG ou Monaco ou Lille va être beaucoup mieux retransmis, beaucoup plus suivi, beaucoup plus vu. Ils savent que s'ils ont une chance infime de faire bonne figure cette saison, notamment dans l'optique d'un transfert, c'est à ce moment-là. Et ils le font à chaque fois comme ça. Et ça, je trouve ça. Mais pour un entraîneur, moi ça me rendrait dingue.
On est d'accord.
Ça me rendrait dingue.
Kevin, ce qui est terrible, c'est que j'ai regardé sur le canal. Football Club, après le match du Paris Saint-Germain, il montrait les résumés, notamment celui de Reims-Saint-Étienne. Saint-Étienne domine, mais outrageusement, ce match. Tant en termes de précision, qu'en termes de technique, qu'en termes de tir cadré, qu'en termes de possession de balle. Saint-Étienne, s'il fait preuve d'un minimum de réalisme, Saint-Étienne doit l'emporter largement. Donc ça veut dire que dans le contenu, Saint-Étienne continue de surfer sur cette bonne dynamique. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, tu vois un club qui, mentalement, souffre et n'arrive pas à transformer en fait ses bonnes prestations en un résultat comptable.
Écoutez, on verra ce que ça donne la suite de Saint-Etienne. Il faut qu'on change de sujet, on est pressé par le temps. Oui. On parle dans un instant du GF38. Voilà, avant de recevoir Désiré Perratembé, messieurs, le GF38 qui fait deux partout face à Auxerre. Une force de caractère, parce que le GF38 perd 2-0. Ils se font bouffer totalement sur la première mi-temps. Hein, c'est vraiment un massacre. On joue très très mal.
Le tournant du match,
hein, Brice Maubleu qui arrête ce pénalty. Ouais. Et derrière, on revient à 2-2 à la 94e minute. Quelle force de caractère quand même de ce GF38.
Bah oui, moi pour le coup, ça m'a rassuré parce que quand j'ai vu notamment la défaite contre Clermont, et derrière, quand je vois qu'on perd encore 2-0 assez rapidement et qu'on est en train de se faire fesser, je me dis bon, c'est fini, les joueurs ont complètement abandonné. Puis bon, il y a quand même ce sursaut de caractère à un moment qui fait que tu te dis bon, ils sont peut-être encore vivants. Alors ça a calmé quand même mes ambitions, notamment pour ce club-là. Peut-être que ils seront pas dans le train pour monter. Moi, je pense que ce championnat de Ligue 2, il est quand même de qualité assez moyenne cette année. Il y a très peu de clubs qui sont.
Il est palpitant.
Ouais, il y a du suspense.
Il est palpitant.
Ouais. C'est vrai.
Je suis d'accord, ça joue pas forcément bien, mais c'est palpitant. On va justement accueillir Désiré Perratembé pour voir ce qu'il en pense. Allez, on est de retour dans le RKS Foot Time Show avec Désiré Perratembé, ancien joueur du GF38, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Salut Désiré.
Salut, bonjour tout le monde.
Bon, comment vas-tu déjà?
Écoute, très très bien.
Très très bien.
J'habite en Corse, oui, très bien.
Bon.
C'est un bon week-end en famille.
Tu es sur l'île, voilà, de Beauté, après avoir fini à Bastia ta carrière, tu as voulu rester là-bas?
Bah, qu'on a connu ici, j'ai eu la chance de finir ma carrière ici. Vu le temps, vu le climat, vu l'environnement, du coup, on a décidé de rester ici. On était bien, la famille était bien, mes enfants aussi aimaient bien ici. Du coup, on a pris la décision de rester ici, quoi. Et on regrette pas.
Bon, ça, c'est une bonne chose, hein, parce que c'est vrai que tu as une carrière que moi, j'appelle à longue durée, qui font partie des joueurs de longue durée, comme tu as cité dernièrement des gens comme Hilton ou Nivet. Tu as quand même fini ta carrière à 37 ans.
Ouais,
du côté,
ouais,
de Bastia, après avoir connu le National, la Ligue 2, la Ligue 1, notamment avec Le Mans et Bastia, hein, il me semble.
Non, je ne connais que la Ligue 1, je connais que Le Mans.
Qu'avec Le Mans?
Que Le Mans.
Oui,
parce... Je n'ai pas connu la Ligue 1, parce que quand on est monté ici, quand on était champion, on a été champion avec Bastia, c'était en 2011-2012, et derrière, j'ai arrêté derrière. Voilà. Quand ils ont monté en Liga, quand on est monté en Liga, on a été champion, j'ai arrêté derrière.
Oui, c'est vrai que tu as été champion de national avec le GF38, tu sais que ça fait 20 ans. Hein, c'était en 2001.
Mais attends, déjà, tu vois.
C'est 2001.
Ah oui, 2001, oui. C'est
énorme.
C'est un truc qu'il faut fêter, ce genre de choses.
Écoute, dans pas longtemps, je dois voir Max Marty, je vais lui en parler. Bah, c'est vrai.
Ouais. Non, mais c'est des choses qu'on n'oublie pas, quoi. Je veux dire, c'est des choses qui se font, comme 2001. Tu vois, ça passe tellement vite que je me souviens même plus.
2001, avec un effectif, tu t'en rappelles, tu jouais derrière Sergio Roras, derrière Robert Mann.
Quelle équipe. Une belle équipe. Non, bon, en national, Roras et Robert étaient venus après en Ligue 2.
Oui, c'est pour ça, c'est déjà, ce que je te dis, la saison d'après.
Déjà, en national, on avait quand même une belle équipe, quoi, parce qu'on avait, je ne me trompe pas, dans le but, on avait Fred.
Ouais, Fred Guéguen.
Derrière, qu'est-ce qu'on avait derrière? On avait Yao.
Jean-Pascal Yao.
Ouais, à gauche, on avait le Portugais, j'ai oublié son nom. À droite, on avait Ravo. Comme on jouait en 3-5-2, il y avait Milazzo et Courtin.
Il y avait Hervé Milazzo, Cyril Courtin, ouais, t'as raison.
Voilà.
Mickaël Ravo,
au milieu,
ouais.
Oh, quel... Voilà, au milieu, t'avais moi, Laurent Debrosse et Laurent David.
Ah, quelle équipe.
Devant, t'avais Mika.
Ouais.
Après, t'avais des joueurs que Alain Michel, ils avaient pris, mais qui n'ont pas donné satisfaction. Et c'est là que Mickaël Dogbé a su se relever, quoi, derrière. Hein. Il a explosé derrière. Mais après, je ne sais plus qui jouait encore. On était trois milieux, je ne sais même plus. Bon, voilà, c'était un peu ça l'équipe, je crois, si je ne me trompe pas.
C'est exactement ça.
Mais voilà, on avait une sur papier pour le national, on avait quand même une belle équipe, quoi.
Ah,
on avait du mal à démarrer, mais après, dès qu'on a pris notre vitesse de croisière, derrière, on était, on va dire, inarrêtable.
Bah, c'est vraiment une belle saison où vous finissez champion avec une effervescence, parce que moi, c'est une des saisons que j'ai suivies où il y avait quand même, pour un club de national, une effervescence au stade qui était plutôt sympa.
Ouais, il y avait du monde. Premièrement, il y avait du monde. Et deuxièmement aussi, je crois qu'on a perdu en quart de finale contre Troyes.
Contre Troyes.
C'est un match vraiment, je pense, exceptionnel parce qu'on menait 2-0, on perd 4-2. Ben, c'est un match que je pense qu'on doit gagner parce que franchement, on avait ce jour-là, hein, ce match-là, je parle. On méritait de passer parce qu'il y avait tout, quoi. On a été énorme sur ce match-là, mais malheureusement, on perd par inexpérience, je pense. Mais voilà, c'est les souvenirs et c'est la même année que Amiens ils vont en finale, quoi.
Tout
c'est
à fait.
La même année qu'Amiens ils vont en finale contre Strasbourg qui perd 1-0. Mais je pense que ça aurait pu être mieux parce que si on gagnait derrière, on allait à Amiens. Alors bon, voilà. Et comme Amiens aussi, c'était un concurrent direct avec nous
pour la montée. Au titre, ouais.
Pour le titre aussi et parce qu'ils avaient mis beaucoup de moyens. Et du coup, ils sont allés en finale, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'était une année vraiment qu'on n'oublie pas. Hein.
Bah, je pense que c'est une année qu'on n'oublie pas, d'une par le titre et puis aussi par... Moi, c'est un des plus gros regrets, entre guillemets, que j'ai en tant que supporter de Grenoble, ce match contre Troyes. Parce que c'est vrai que ça aurait été magnifique d'aller en demi-finale d'une Coupe de France.
Mais ça aurait été, oui, c'est sûr. Bon, non, mais surtout qu'on méritait, quoi. C'est-à-dire, si on passe, on ne crie pas scandale, quoi, si on passe.
Bah, bien sûr.
Mais après, si c'est le foot, c'est comme ça.
T'es quand même un homme de challenge, parce que ce que j'ai relevé dans ta carrière, c'est que même t'as deux ou trois clubs où vous êtes descendu, et t'es quand même resté pour rejouer la montée l'année d'après.
Bah, je suis resté, bon, après, Bastia, c'est différent. Au Mans, j'aurais pu partir parce que j'avais des clubs qui étaient intéressés, donc Nantes qui était intéressé. Bon, après, le Mans m'a pas laissé partir. Bon, je suis resté parce que, surtout au Mans, parce que parce qu'ils voulaient pas me laisser partir. Bon, après, à Bastia, je suis resté aussi parce que bon, il y avait l'engouement derrière. Je sais que le club allait monter, on avait l'équipe pour monter. Et voilà, après aussi, il faut dire ce qui est, quoi. Après, j'avais à l'époque qu'on est descendu, quand je suis venu à Bastia, je sais que j'étais plutôt sur la fin et que c'était compliqué de trouver un club de Ligue 2 ou autre chose, quoi. Voilà. Du coup, aussi, c'est pour ça aussi que je suis resté aussi et que voilà, les dirigeants aussi, quand on est descendu de Ligue 2 en nationale, ils ont voulu me garder aussi parce qu'il fallait aussi des joueurs d'expérience pour entourer des jeunes, quoi.
Bah, oui, et puis t'as été nommé capitaine aussi.
Oui, j'étais nommé capitaine. Au début, j'étais vice-capitaine parce que aujourd'hui, enfin, à l'époque, c'était Cahuzac qui était capitaine.
Qui est toujours là, du côté de Lens.
Qui est toujours là, au côté de Lens. Et après, à un moment donné, il était blessé. Du coup, voilà, je me suis... on m'a mis capitaine, du coup. Voilà.
Au début de ta carrière, moi, j'aimerais te poser une question. Tu connais quand même... Tu arrives de La Réunion, je crois, à 16 ans, au centre de formation d'Auxerre.
Ouais.
C'est ça. Tu connais... tu gagnes la Coupe Gambardella, qui doit être un souvenir assez incroyable.
C'est ce souvenir encore. Oui, c'est ça, tout à fait.
Et moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu n'as pas un regret du côté d'Auxerre quand Giroud te dit que finalement, il ne compte pas sur toi?
Bah, regret, on peut toujours avoir de regret. Parce que, bon, Giroud, tu as dit plein de choses. Hein, qui ne comptait pas sur moi, bien sûr. Parce que, bon, à l'époque, il faut dire ce qu'il y a. Parce que c'est comme aujourd'hui, Lyon, Auxerre faisait partie. C'était le meilleur centre de formation en France.
Il n'y avait pas photo.
On était quand même beaucoup, beaucoup de joueurs. Et peu d'élus, hein, je veux dire, il y a beaucoup de joueurs, je peux citer, un mec comme Benjamin Nivet n'a jamais pu percer à Auxerre.
Et pourtant, carrière.
Il a fait une super carrière. Mais il y a eu des joueurs à Auxerre, mais des joueurs vraiment qui étaient très très forts, mais qui n'ont pas pu passer parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de jouer. Mais bon, je pense que c'était une très très bonne expérience parce que c'est vrai qu'à Auxerre, on était dans un cocon. Mais c'est vrai qu'il y avait malheureusement enfin il y avait quand même des joueurs de qualité. Des joueurs de qualité à Auxerre, c'est pour ça que aussi c'était difficile. C'était très difficile de percer. Et puis à l'époque aussi l'équipe première à l'époque, il y avait des sacrés joueurs en équipe première, alors c'était compliqué, quoi.
Bah c'était la grande époque de la GIA, donc
c'était la grande époque de la GIA, la grande époque l'épopée de la Coupe d'Europe et tout. Alors bon, c'était quand même, il y avait des sacrés joueurs quand même qui jouaient au milieu de terrain, même derrière, partout, hein. Il y avait des sacrés joueurs quand même, hein. T'avais Corentin Martin, t'avais Moussa Saïd, Lamouchi, t'avais quand même des sacrés joueurs qui ont des CV quand même exceptionnels, quoi.
Ça t'a pas empêché de faire une belle carrière, en tout cas?
Ben, ça m'a pas fait une belle carrière. J'ai fait ma carrière, j'aurais pu peut-être faire mieux. Mais bon, après, voilà, c'est comme on dit, hein, c'est le football, hein. Il n'y a pas de regrets. Mais c'est vrai que je suis content de ma carrière parce que j'ai jamais connu le chômage comme ça peut exister. J'ai eu de la chance quand même, j'ai eu de la chance et puis j'ai été peut-être bon au bon moment aussi, voilà.
T'as été un peu épargné par les blessures aussi, même si t'en as connu.
Oui, épargné par les blessures. J'ai connu les blessures assez graves quand j'étais plutôt jeune. Mm-hmm. J'ai eu pubalgie, j'ai eu quand j'étais jeune aussi prêté à Troyes, j'ai eu les cartilages. C'est les deux plus grosses blessures que j'ai eues, mais c'est vrai que dans l'ensemble de ma carrière, quand même, j'ai pas eu des très 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 grosses blessures.
Bon, t'as attendu la fin de ta carrière pour faire une rupture du talon d'Achille.
Et j'ai attendu.
J'espère que ça va mieux quand même.
Oui, ça va mieux. J'ai attendu la fin de ma carrière pour faire ça, mais bon, vaut mieux que ça arrive maintenant que quand j'étais en plein.
Exactement.
Quand je jouais au foot, quoi.
Ça, c'est sûr.
Voilà, bon, voilà.
Est-ce que tu suis toujours le GF 38?
Mais bien sûr. Mais il faut savoir que tous les clubs où je suis passé, je regarde les résultats. Je regarde pas tous les matchs.
T'es toujours attentif.
Je suis toujours attentif et je regardais le match de
contre Auxerre.
Auxerre. Ouais. À 2-0, j'ai arrêté parce que je me suis dit que c'était
plié,
que c'était compliqué. Ouais. Mais quand j'ai vu la deuxième mi-temps où GF 38 mettait quand même la pression pour égaliser. Ils ont eu quelques opportunités. Ouais. Et après, à la fin, quand je vois le résultat, j'étais pas surpris et même quand je regardais ce match, je me dis, putain, des fois, les matchs de Ligue 2, ils sont plus intéressants que certains matchs de Ligue 1.
Ah ouais, il y a du suspense.
Parce que sur ce match-là, c'est vraiment, ça joue bien au football.
Ouais, ça joue au ballon.
Mais c'est deux équipes.
Ouais, c'est deux équipes de Ligue 2 qui jouent vraiment bien au football. Hein.
Mais après, on a deux entraîneurs aussi qui prônent le jeu aussi.
C'est ce que j'allais dire. Quand t'as Jean-Marc Furlan et Philippe Isberger, voilà, qui sont, pour moi, dans le haut du panier des coachs de Ligue 2, c'est sûr qu'on s'embête pas à avoir joué la JA Auxerre et le GF 38. T'as vu quelle force de caractère? Est-ce que ça peut être une force que toi t'as connue aussi? Parce que.
Mais bien sûr, je pense que quand on est mené 2-0, et cette force de dire que voilà, on veut pas perdre, de dire ça, il faut garder jusqu'à la fin de saison. Je pense que nous, à l'époque, et aussi c'est une question de confiance aussi, la confiance qui fait qu'amène ça aussi. Parce que je pense que même s'il perd 2-0, il savait que s'il marque le but derrière, parce que le foot, c'est toujours un rapport de force.
Complètement.
Et un rapport de force, quand même à 2-0, on voyait que si GF 38 marquait un but, derrière, ils peuvent égaliser et même gagner le match. Mais bon, c'est ce qui est arrivé. Hein.
Mais je pense que sur la physionomie du match, finalement, le match nul n'est pas immérité pour les deux équipes.
Il n'est pas immérité. Parce que aussi ils ont des opportunités, ils ont raté un pénalty. Mais bon, je veux dire, sur ce match-là, je pense que le match nul est vraiment équitable.
Ouais, ça fait plaisir de voir deux équipes comme ça. En plus, c'était anciennes, ton club formateur et où tu as joué le plus de matchs.
Exactement. C'était un clin d'œil. Mais je veux dire, il n'y a pas de secret. Hein. Je veux dire, quand on met l'intensité, quand on joue au ballon, à un moment donné, le résultat, ça suit. Hein. Vous voyez que les équipes, je pense que les équipes qui jouent au ballon en Ligue 2, que j'ai pu regarder, je ne regarde pas tous les matchs, que je regarde de temps en temps, je pense que Grenoble, Troyes, ils jouent aussi au ballon. Je trouve que Troyes, ils ont quand même une façon de jouer, c'est cohérent. Auxerre, mais les trois équipes font partie, je veux dire, de tableau, quoi.
Ouais, je pense qu'avec Toulouse, Toulouse, c'est l'expérience, peut-être.
J'ai pas vu Toulouse. Je pense que c'est plus, enfin, pour avoir vu Toulouse jouer, ils avaient gagné, je crois, 1-0. Mmh. Je pense que Toulouse, c'est une équipe vraiment physique,
c'est solide,
vraiment, qui joue en solide et qui joue beaucoup en contre-attaque.
Bah, c'est ce qui fait leur force. Hein.
Ouais. Ils ont les costauds devant qui vont à 2000.
Et tu sais que justement, le match de ce week-end, c'est Toulouse GF 38.
Ah, d'accord. Ouais.
Donc, okay. C'est après avoir joué les 5 premiers duos de tableau, on finit par Toulouse. Donc, est-ce que tu aurais un pronostic sur ce match-là?
Sur ce match-là, moi, je vois un match nul.
Bah écoute, ouais, je pense qu'on signe tout de suite.
Je pense aussi. Parce que Toulouse, en ce moment, c'est une belle spirale. Hein, parce que là, je crois que ça fait quand même pas mal de matchs qu'ils n'arrivent pas d'enchaîner.
Ils sont sur 10 matchs sans défaite, c'est incroyable.
Voilà, qu'ils sont premiers. Et je pense qu'ils font partie des favoris aussi, quoi. Faut dire ce qu'il
y
a, quoi.
Bah, il y a les moyens, il y a un gros budget, c'est un gros club. Hein, ils ont raison.
Tout, ouais,
c'est un club qui doit être en Ligue 1.
Il y a l'histoire, il y a le moyen, il y a le stade, l'infrastructure. Il y a l'équipe aussi. Alors bon, je pense qu'ils sont armés pour jouer la montée. Hein.
Eh ben écoute, Désiré, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose pour la suite de ta carrière? Parce que je sais que tu fais du consulting.
Ouais.
Si je me trompe pas. Hein.
Ben, pour la suite de ma carrière, je pense, j'espère que.
Ta reconversion, on va dire.
Ta reconversion, que tous les projets que j'ai en ce moment, que se concrétiser, quoi.
C'est tout ce qu'on te souhaite.
Et qu'on arrive à vivre normalement malgré qu'il y a le Covid, quoi.
Ouais, ça,
la
c'est...
santé surtout.
Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un beau message que tu passes. Et en tout cas, tu sais que tu as laissé un super beau souvenir dans la région. Hein, même les RK en parlent encore. Donc, ouais. N'hésite pas quand tu reviens à nous faire signe, à leur faire signe.
Bah, je pense que, j'espère qu'on pourra.
Tu dois voir Max Marty.
Venir voir un match.
En plus.
On pourra venir voir un match. Déjà, est-ce que le club nous invite pour la montée du club ou faire un match avec les anciens, je sais pas. De faire quelque chose, quoi.
Tu sais, je peux oser en parler. Je dois voir aujourd'hui Alexis Sandre, qui est un ancien supporter grenoblois, qui est maintenant le responsable communication du GF38.
Moi, je sais, je vois qui c'est. Ouais,
voilà, je vais lui en parler. Je vais lui dire, ça fait 20 ans qu'on a eu le titre de national, il faut faire quelque chose.
C'est quelque chose que, oui, ça aurait été bien. C'est une petite clin d'œil sympa, quoi.
C'est vrai. Dès que cette période de Covid pénible sera finie, on va lancer l'idée, en tout cas.
Exactement. Mais écoute, c'est
Désiré, merci beaucoup.
C'est une très bonne idée, quoi. Ben, merci à toi.
Pour ta disponibilité et ta sympathie. À bientôt.
Pas de souci. Avec plaisir. À bientôt.
Bah, salut, bye bye.
Allez, au revoir.
Ah, quel plaisir d'avoir Désiré Perratembé, les gars. C'est vraiment un régal, hein. On se retrouve tout de suite dans RKS. Messieurs, notre émission touche à sa fin. C'était vraiment un plaisir encore une fois d'être avec vous. On se retrouve la semaine prochaine sur les ondes de RKS, le 97 FM sur la région grenobloise. Merci Kevin.
Eh ben merci Melvin, et puis à la semaine prochaine.
Merci mon Pierrot.
Ciao.
Ciao ciao.
Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot, ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.